VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du vendredi 12 juin 2015. Idrissa Seydoudi et Morgan Diaye en votre compagnie. À la une ce soir.
Burundi, le pouvoir affirme que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées.
Notre envoyé spécial dans la région nous parlera de sa visite dans un camp de réfugiés burundais au Rwanda.
À Tripoli, la capitale libyenne, une milice armée a investi le consulat tunisien et enlevé 10 fonctionnaires.
Dominique Strauss-Kahn acquitté en France pour proxénétisme.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, éliminatoires de la CAN 2017, la Guinée joue ce soir contre le Swaziland.
Mais d'abord, le journal.
Au Burundi, alors que la contestation a été muselée, le pouvoir affirme aujourd'hui que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Nicolas Pinault.
C'est la présidence burundaise qui relate ce chiffre sur son site internet en relatant une réunion tenue mardi à Gitega entre les gouverneurs de province et Pierre Nkurunziza. À cette occasion, le président burundais a affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Et selon lui, la CENI va continuer à distribuer ses cartes d'électeur afin que ceux qui regagnent le pays puissent se présenter aussi aux élections. Interrogé par VOA Afrique, Prosper Ntaoramiye, porte-parole de la CENI, estime que les données pour Bujumbura ne sont pas établies, mais que dans le reste du pays, le taux de retrait des cartes d'électeur avoisinerait les 100%. Un chiffre surprenant puisqu'actuellement le HCR recense environ 100 000 réfugiés burundais, en majorité des femmes et des enfants. La moitié d'entre eux se trouvent en Tanzanie, puis viennent le Rwanda, la RDC et de plus en plus l'Ouganda. Le pouvoir burundais affirme aussi que la sécurité règne actuellement dans le pays. Sur les 119 communes burundaises, seuls 4 quartiers de Bujumbura posent problème. Nyakabiga, Mutakura, Musaga et Ngagara. Le Burundi sera encore au menu des discussions de l'Union africaine réunies en sommet en Afrique du Sud. On ignore pour le moment si Pierre Nkurunziza se rendra en personne auprès des autres chefs d'État et de gouvernement.
À noter également qu'un journaliste rwandais, Étienne Bessabessa Mivumbu, a été arrêté et inculpé d'espionnage au Burundi, faute d'accréditation. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la province de Muyinga, cité par l'AFP.
Élection en République démocratique du Congo. La communauté internationale veut s'assurer que le processus électoral sera crédible avant de pouvoir y apporter son soutien. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU pose des conditions à tout appui logistique et technique de la mission onusienne en RDC. Il est important pour les Nations Unies qu'il y ait pendant la période post-électorale, électorale et même après élection, un espace politique adéquat, que les droits de l'homme soient protégés et promus, que le processus en soi soit crédible, a fait savoir la MONUSCO à l'issue d'une rencontre avec la commission électorale et des membres du gouvernement.
Une mission de dirigeants de la rébellion à dominante Touareg du Nord Mali s'est rendue aujourd'hui dans le camp de réfugiés de Mbeira en Mauritanie pour expliquer la décision de signer l'accord de paix avec le gouvernement le 20 juin. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP un membre de la délégation. Par ailleurs, plusieurs représentants de la rébellion en Europe ont récusé cette signature, affirmant que l'accord serait rejeté par leur base lors d'une conférence de presse à Paris.
Trouble à Tripoli, la capitale libyenne contrôlée par les milices de Farj Libya. Une milice armée a investi le consulat tunisien et a enlevé 10 fonctionnaires. D'après l'AFP, les autorités tunisiennes n'ont ni identifié les assaillants ni été en mesure de localiser le lieu de détention de ces ressortissants. Selon des correspondants de l'AFP à Tripoli, le secteur a été complètement bouclé et des forces de sécurité empêchées des journalistes de s'approcher des lieux.
Et sachez aussi que Stromae annule le concert qu'il devait donner demain à Kinshasa. Le chanteur belge a dû rentrer en Europe pour une urgence médicale, d'après la société chargée de la promotion de l'événement dans la capitale congolaise. Le groupe de communication Pygma, cité par l'AFP, assure que les billets achetés à Kinshasa seront remboursés.
Un tribunal français a quitté l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui était accusé de proxénétisme aggravé, un précédent scandale sexuel à New York, vous vous rappelez, avait mis fin à sa carrière au Fonds monétaire international. Michel Joseph.
C'est une nouvelle prouesse de la science. L'opération du jeune Sud-Africain avait duré 9 heures. Le pénis greffé avait été prélevé sur un donneur décédé après accord de sa famille. Le miracle.
Voilà, et donc si on pouvait avoir la bande sur Dominique Strauss-Kahn maintenant.
Le tribunal de Lille a prononcé son acquittement ce vendredi. S'il avait été reconnu coupable, Dominique Strauss-Kahn aurait fait face à 10 ans de prison et à une amende de 1,7 million de dollars. Au moins 10 des associés de l'ex-patron du FMI ont également été acquittés. Pendant les audiences qui se sont ouvertes en février, des femmes ont témoigné sur la nature brutale des orgies qu'il a été accusé d'avoir organisées. Strauss-Kahn a admis qu'il a participé à des orgies, mais il a dit qu'il ne savait pas que les femmes en question à Lille, Bruxelles, Paris et Washington étaient des prostituées et il a nié l'organisation de ces rencontres libertines. Strauss-Kahn, une fois considéré comme candidat potentiel pour la présidence française, a été contraint de démissionner du FMI en 2011 après avoir été accusé de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre dans un hôtel de New York. Les procureurs de New York ont finalement abandonné l'affaire contre lui.
Le procès de trois hommes accusés d'avoir violé et sauvagement tué une étudiante de 20 ans en février dans le sud de la Turquie s'est ouvert aujourd'hui en présence de nombreux avocats et d'ONG de défense de droits des femmes. Le meurtre d'Osegan Aslan a suscité une vague d'indignation dans tout le pays et mis en difficulté le gouvernement islamo-conservateur accusé d'entretenir les violences contre les femmes par ses préjugés religieux. Avec deux complices, son père et un ami, le tueur a ensuite coupé la main de sa victime et mis le feu à son corps pour faire disparaître toute trace. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors, le Pakistan a fermé de force jeudi soir les locaux de Save the Children à Islamabad. A menacé vendredi de s'en prendre à toute ONG étrangère agissant contre les intérêts du pays. Save the Children était particulièrement surveillé par les autorités pakistanaises depuis 2012 lorsqu'un rapport des services de renseignement locaux avait établi un lien entre l'ONG et Shakil Afridi, le médecin pakistanais qui a aidé la CIA dans sa traque d'Oussama Ben Laden, tué par un raid commando américain dans le nord du pays en mai 2011.
Et ici, aux États-Unis, un juge a estimé que deux policiers impliqués dans la mort d'un garçon noir et de 12 ans abattu en novembre dernier à Cleveland, alors qu'il manipulait un pistolet factice, devraient être traduits en justice. L'avis de ce juge du tribunal municipal de Cleveland est consultatif, comme le rappelle la chaîne de télévision locale ABC News, citée par l'AFP. C'est au procureur qu'il reviendra de décider d'engager ou non des poursuites et de déterminer les chefs d'accusation. Lionel Gaïma.
Le décès de Tammy Rice avait remué l'opinion américaine à l'automne dernier en plein débat sur les violences policières à l'encontre de minorités et surtout des Noirs aux États-Unis. Le garçon a été abattu le 22 novembre, quelques secondes après l'arrivée dans un square de deux policiers, alertés en un appel leur signifiant qu'un enfant jouait avec un pistolet. La police a affirmé que les deux agents avaient été informés lors du signalement que l'arme, un jouet, était probablement factice. Le juge Ronald Adrin a recommandé que Timothy Lowman, l'officier de police auteur de coups de feu, soit poursuivi pour meurtre, homicide involontaire et manquement à son devoir de policier. Ces deux derniers chefs d'accusation pourraient aussi être retenus contre son collègue Frank Garmbach, qui conduisait la voiture de police, a estimé le juge selon ABC News. Il a été amené à se prononcer à la faveur d'une loi permettant aux habitants de la ville de court-circuiter le procureur pour réclamer directement un mandat d'arrêt auprès d'un juge. Le bureau du shérif du comté de Cuyahoga, chargé de l'enquête, a rendu la semaine dernière des conclusions au procureur. Mais la procédure peut prendre encore plusieurs semaines, voire des mois, pour que ce dernier décide ou non d'engager des poursuites.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco ce soir avec Félix Yepasis Zembro.
Les prix du cacao sont restés robustes cette semaine sur fond de crainte de perturbation de l'offre de plus en plus forte, tandis que le sucre et le café sont restés sous la pression d'une offre surabondante. Les cours du cacao échangés à New York à 3 157 $ la tonne. Les tarifs demeurent soutenus par les inquiétudes grandissantes des marchés sur la baisse de l'offre du Ghana, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde derrière la Côte d'Ivoire. Le directeur général des supermarchés britanniques, Sainsbury's, qui avait écopé d'une peine de 2 ans de prison en Égypte à la suite d'un litige entre son groupe et un ancien partenaire égyptien, a vu jeudi sa peine annulée selon une source judiciaire. En septembre 2014, Mike Coop avait été condamné à 2 ans de prison par contumace par un tribunal correctionnel après une plainte déposée par un ancien partenaire commercial du groupe britannique. Jeudi, une cour d'appel de la province de Gizeh, au Caire, a annulé ce verdict selon la source judiciaire. Un couvre-feu a été décrété à 12 dans le sud de la Tunisie après des violences sporadiques entre habitants réclamant des emplois et forces de l'ordre, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur vendredi. 12 est le théâtre de violences sporadiques depuis que des habitants réclamant des emplois et le développement de la région ont été empêchés de manifester devant une compagnie gazière, a indiqué à l'agence France Presse un responsable local.
Merci Félix Yepasis Zembro pour cette Minute Éco.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
La course pour la qualification à la CAN 2017 commence ce soir.
Oui, 3 matchs au programme. À Casablanca, le Sili National de Guinée qui reçoit le Swaziland. Autre match, Maroc, Libye et Tunisie, Djibouti.
Et d'autres matchs ce week-end.
Notamment le Tchad qui se déplace au Nigeria, le Sénégal qui accueille au stade Léopold Sédar Senghor le Burundi, et puis le Mali qui fera face au Soudan du Sud, la République démocratique du Congo face à Madagascar ou encore le Gabon contre la Côte d'Ivoire. Les écureuils du Bénin se sont envolés pour Bata. C'est après 5 jours de préparation que l'équipe entraînée par Oumar Tchomogo ira affronter celle de la Guinée équatoriale. Les détails d'Élisée Ongpatine.
C'est dans une ambiance morose que les écureuils se préparent pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une préparation à sa juste valeur quand on sait les problèmes qui minent le football béninois. Stéphane Sessayon, le capitaine de cette sélection, est satisfait du travail abattu depuis le début de la semaine.
On a pu bien travailler, surtout physiquement. Donc là, on est prêt pour le départ, en espérant faire un bon résultat au Malabo.
Quant au sélectionneur Oumar Tchomogo, il doit composer avec plusieurs absents pour ce déplacement en terre équato-guinéenne. Une situation difficile pour l'ancien capitaine des écureuils, qui rassure tout de même.
Moi, je vais repartir avec les jeunes, comme vous l'avez remarqué. Mais il faut vraiment nous laisser le temps et nous donner les moyens.
Le Bénin, logique. Dans un groupe C composé en plus de la Guinée équatoriale, du Mali et du Soudan du Sud, doit surmonter cette crise qui secoue son football, cette guerre ouverte entre le ministère des Sports et la Fédération. D'ailleurs, 2 joueurs emblématiques ont préféré ne pas répondre à leur convocation. Élisée Rumpati, Boycon, VOA Afrique.
Nouvelle défaite pour les Ivoiriennes à la Coupe du Monde féminine au Canada.
La Côte d'Ivoire croisait le fer avec la Thaïlande, 2 équipes qui voulaient remettre les compteurs à 0 après leur lourde défaite en début de compétition. Malheureusement, les Ivoiriennes ont dû concéder la défaite. Score final 3-2 pour les Thaïlandaises.
Finale NBA, Golden State revient dans la course.
Pour la première fois depuis le coup d'envoi de la finale 2015, Golden State a montré son visage conquérant de la saison régulière en dominant Cleveland 103-82. Après 2 défaites consécutives, les Warriors ont bien réagi et ont complètement relancé cette finale NBA où les 2 équipes sont désormais à égalité, 2 victoires partout.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale.
Le Rwanda, où une pétition a été déposée au Parlement demandant une révision de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Notre envoyé spécial à Kigali, Bagasi Koura, je l'ai contacté pour faire le point.
Ici, la question est posée beaucoup plus différemment comparée aux autres pays. Je pense notamment à la RDC, au Burkina Faso, ou même il y a un certain temps au Sénégal. Donc ici, si on peut le dire, entre guillemets, une sorte d'unanimité autour du président Paul Kagame. Donc ses supporters disent avoir organisé une pétition qui a réuni près de 4 millions de signatures, c'est ce qu'ils disent. Et si on sait que généralement le nombre d'électeurs dans le pays, c'est autour de 6 millions, vous voyez déjà ce que ça donne. Et ensuite, je pensais que, au moins avec la société civile, on pouvait avoir peut-être des positions beaucoup plus mesurées. Et ici, le président de la plateforme de la société civile, lui, il pense qu'il faut laisser le peuple décider. Si le peuple, si les Rwandais pensent que Paul Kagame doit continuer à rester au pouvoir, eh bien c'est la démocratie, c'est le peuple qui doit décider. Il n'y a pas de raison que Washington ou l'Union européenne ou les autres pays africains s'en offusquent. J'ai croisé Bernard Ntaganda, c'est un opposant du Parti socialiste. Lui, il pense que cette question de pétition est juste une manœuvre du parti au pouvoir destinée à un peu embrouiller la communauté internationale pour changer la constitution. Lui, il pense que le Rwanda était un pays démocratique, on n'aurait pas tant de journalistes rwandais réfugiés à l'étranger. Il dit qu'il y a trop d'hommes politiques rwandais qui sont réfugiés à l'étranger et que lui-même, il n'a pas d'espace de liberté pour exprimer ses points de vue. Et donc, vu tout cela, il pense que tout ce qui s'agite autour de la Constitution, c'est parce que les opposants n'ont pas assez de force et n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Mais ce que je constate, c'est que ce débat, à l'allure où vont les choses, ce débat n'ira pas loin. Et je pense que la constitution rwandaise, si le pouvoir veut le changer, il risque de ne pas avoir trop de difficultés à le faire comme on le voit ailleurs.
Notre envoyé spécial au Rwanda, Bagasi Koura, qui s'apprête à quitter le Rwanda pour le Burundi.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Fin de l'épidémie de méningite au Niger. Selon Médecins sans frontières, le nombre total de patients a diminué de 98%. À Niamey, où l'épidémie a été très aiguë, il n'y a plus que 4 admissions par jour contre 279 début mai. Claire Morin-Gibourg a joint le coordinateur médical de l'ONG Médecins sans frontières au Niger pour comprendre les raisons de ce succès. Le docteur Idrissa Compaoré.
C'est vraiment multifactoriel. 3 groupes de raisons. La première raison par rapport à la baisse des mages, je citerai la pluie. Il a commencé à pleuvoir, surtout au niveau des dossiers, là où nous intervenons. Après la pluie, on a constaté la baisse très importante des cas, la semaine qui a suivi la pluie. Le deuxième élément, je dirais, c'est un peu la vaccination. Parce que la vaccination a quand même ciblé la tranche de la population la plus touchée, c'est-à-dire les 2-14 ans. Mais on l'a fait, on le reconnaît, parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins non plus, sinon on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Donc il y a une part contributive quand même de la vaccination à cette baisse. Et le troisième point, je dirais, c'est la sensibilisation. Parce que il y a eu pas mal de messages qui sont passés dans les districts les plus touchés. Donc cette sensibilisation était basée sur la prise en charge gratuite des cas pour que les gens puissent venir rapidement. Et nous, on l'a constaté à Douchi où les délais de consultation étaient autour de 48 heures. Il y a également le message passé par cette sensibilisation qui était le regroupement. C'est-à-dire qu'on disait aux gens d'éviter de se regrouper pour essayer de couper la transmission entre les porteurs et les autres individus, casser un peu la chaîne de transmission. Ensuite, il y a la fermeture quand même des écoles qui va dans le même sens que le regroupement. Ça permet quand même de diminuer la transmission.
Médecins sans frontières souligne que c'est la première fois que le Niger était confronté à une épidémie de méningite de souche C. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet de cette nouvelle souche ?
On est inquiet parce que c'est une souche qu'on n'a pas les connaissances scientifiques sur l'évolution épidémique. Mais le nombre de cas ayant présenté ces complications nous a quand même interpellés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'études sur cette épidémie pour essayer encore d'éclairer davantage la connaissance scientifique d'une épidémie méningite à méningocé.
Idrissa Compaoré, coordinateur médical de l'ONG Médecins sans frontières au Niger. Il était joint à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
46 condamnations à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo, suite à des audiences menées sous l'impulsion et avec le soutien logistique du bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences. Les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Madame Janine Mabunda Lyoko. Ces condamnations ont été rendues possibles par le système de tribunaux mobiles mis en place par l'État congolais, les magistrats se déplaçant à travers le pays pour juger des affaires dans des régions où elle n'est pas suffisamment présente. Un bilan du travail accompli à Bunia avec Madame Mabunda.
On a participé, disons, à des tribunaux pour 65 cas enregistrés de viol à Bunia, en Ituri, dans une province donc, qui est pas loin de la frontière ougandaise. Et donc, sur les 65 cas de viol, il y a eu 46 condamnés et 13 acquittés.
Êtes-vous satisfaite de cette décision?
Mais je crois que tout ce qui concourt à rassurer les populations qu'ils sont désormais en sécurité et que lorsqu'ils ont un cas de viol qui les frappe, ils peuvent se confier à la justice avec la certitude de voir une suite et un traitement de leur dossier sous forme de décision. Oui, je pense que toutes ces activités, tous ces actes qui permettent de crédibiliser la justice dans la lutte contre l'impunité, ça nous rend tous satisfaits comme citoyens congolais. Je pense que les gens ont besoin, avec les cours mobiles, de voir la justice à leur porte, la justice à leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils disent, nous voulons voir la personne punie là où elle a commis le crime. Parce que, un, ça a un effet pédagogique pour que tout le monde apprenne que le viol, il y a une loi qui l'interdit à un dossier. Deux, ça a un effet de réconciliation parce que la communauté était traumatisée et perturbée et elle a besoin de savoir qu'il y a un processus étatique par le canal de la justice qui permet de remettre de l'ordre dans une communauté qui était perturbée par les actes d'un violeur.
Quelle va être la prochaine étape pour ces tribunaux mobiles?
Les tribunaux mobiles existent depuis quelques années en République démocratique du Congo. Et en fait, ce sont des tribunaux qui se déplacent, qui vont, disons, à la rencontre des justiciables et qui rassemblent plusieurs dossiers qui ont un même objet pour lequel la société considère que ce sont des actes qui ne peuvent pas rester impunis et qui ne peuvent pas couler dans la lourde administration de la justice. Donc, il y a des tribunaux mobiles à Bunia, mais si on se souvient, l'année passée, la République démocratique du Congo a organisé des tribunaux mobiles au Nord Kivu, qui est une autre province. On a eu des tribunaux mobiles à Rutshuru, à Masisi, à Bukavu, pour ne donner quelques exemples, à l'ouest du Congo, au Bas-Congo, à Kasangulu. Donc c'est une pratique qui est courante et qui répond à l'immensité du pays, parce que quand on a un pays aussi grand que le Congo, où Kinshasa et, comme j'ai dit, Goma sont aussi distants que Londres et Moscou, avec l'héritage que nous avons eu de perturbations, les infrastructures et l'état dans lequel elles sont ne permettent pas toujours, compte tenu du nombre de magistrats, d'avoir des tribunaux dans tous les territoires. Alors la façon de répondre à ça, c'est de rassembler des dossiers dans une même zone géographique, dans un point de centralisation, et de les traiter en même temps, surtout quand il s'agit d'un même sujet qui était ici, le cas des violences sexuelles.
C'était Madame Janine Mabunda Lyoko, jointe en RDC par Camille Grodillier.
Les débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement ont été dominés par... Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Notre sujet de cette semaine, que pensez-vous du travail des enfants dans les pays pauvres? Comment résoudre ce problème? Nos invités d'honneur en direct du studio 13 pour répondre à cette question, le talentueux balafoniste chanteur malien Mamadou Dembélé dit Dabara et le célèbre Molobali Keita, deux grands artistes maliens en visite à Voice of America. Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Encore une fois, c'est le plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. C'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est ce soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Partons maintenant au Mali, où l'Assemblée nationale a voté le document de politique générale. Reportage de Bamako, Kassim Traoré.
Les débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement ont été dominés par la situation sécuritaire, celle de Menaka, Bourema Beridogo, député de l'opposition.
Missine dans le cercle de Kadiolo a été attaqué par les djihadistes, des gens ayant signé en Sardine au sud du Mali. Les deux drapeaux dans Sardine ont été hissés dans le village et les renforts ne sont arrivés de Sekasso 10 heures après sur le premier ministre. Le bon sens ne veut-il pas qu'on renonce aux dépenses de prestige pour équiper l'armée malienne d'hélicoptères de combat capables de faire face dans un temps raisonnable des situations de guerre. Les forces de l'ordre et de sécurité à Missini ont été à court de munitions lors de la...
Selon la députée de Tombouctou, les récentes attaques dans sa localité ont occasionné le déplacement de 3000 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Adisa Benkatra, députée de Tombouctou.
Monsieur le Premier ministre, saviez-vous que depuis septembre 2014, ces localités investes manquaient déjà de tout soutien alimentaire ainsi que les localités d'accueil de nombreux déplacés? Quelles sont les mesures d'urgence envisagées pour soutenir ces populations en détresse et ces chefs de famille dépouillés de tout par les bandits armés? Si rien n'est fait pour les exploitants des plaines de Daï, Amadja, Koroyeme, la situation alimentaire risque d'être dramatique pour les populations.
Répondant à ces préoccupations, le Premier ministre pense qu'il y aura une campagne de distribution des vivres dans les localités qui sont en difficulté. Pour certaines questions relevant des secrets de défense, il a proposé un autre format afin que les ministres concernés puissent venir s'expliquer devant les députés. Après les débat, 116 députés ont donné leur cutis, alors que les 21 députés de l'opposition ont refusé le document. Mamadou Diarasouba, député de la majorité.
La DPG reflète la vision présidentielle. Donc la vision présidentielle, c'était en trois axes. Garantir la sécurité des personnes et des biens, améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir la justice. C'était vraiment dans son projet présidentiel le Mali d'abord. Donc vraiment, la DPG reflète parfaitement vraiment la vision du président de la République et le projet de société de mon parti.
Modibo Keïta, premier ministre du Mali après l'adoption de la déclaration de politique générale du gouvernement.
J'ai noté que ceux qui ont apporté leur confiance à la déclaration de politique générale n'ont jamais renoncé à leur droit du contrôle de l'action gouvernementale. Que ceux qui ont voté pour ont accompli un devoir républicain. Ceux qui ont voté non ont accompli aussi un devoir républicain. Alors l'essentiel pour nous, c'est de regarder vers l'avenir. Cette réalité est supportée par l'image superbe que nous renvoie le peuple du Mali qui attend de nous que nous apportions des réponses appropriées à ces préoccupations.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, alors que la contestation a été muselée, le pouvoir affirme aujourd'hui que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielles.
À noter également qu'un journaliste rwandais, Étienne Bessabessa Mivumbu, a été arrêté et inculpé d'espionnage au Burundi, faute d'accréditation.
Concernant les élections en République démocratique du Congo, la communauté internationale veut s'assurer que le processus électoral sera crédible avant de pouvoir y apporter son soutien.
Ainsi va le Monde aujourd'hui. Présentation Morgan Yeriek et Idrissa Seydoudia. À la mise en onde, Yemi Obadjimi. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.